Bonjour, bienvenue, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, à cette journée d'études intitulée « Du droit des objets à disposer d'eux-mêmes » que nous avions prévu de tenir l'an passé, il y a un an, et qui a été repoussée d'un an. Je dis ça parce que le sujet est devenu d'actualité dans cette année. Quand on a proposé ce sujet juridique sur la question du retour d'objets, on le faisait dans une perspective, il y a un an et demi, abstraites, comme des intellectuels qui imaginent des choses. Et puis l'histoire s'est accélérée, comme vous le savez, à l'automne dernier. Emmanuel Macron a annoncé bruyamment la restitution du patrimoine africain conservé dans les collections nationales françaises à l'Afrique, restitution temporaire ou définitive, ce qui a enchaîné toute une dynamique de domino en Europe, beaucoup de prises de position dans les différents pays européens, si bien que notre sujet, qui était un jeu intellectuel, avec tout le sérieux des jeux intellectuels, il y a un an, est devenu un vrai sujet d'actualité. Alors, ça nous rend à la fois heureux et à la fois inquiets, bien sûr, puisque quand le jeu a un enjeu et peut être instrumentalisé ou utilisé politiquement, il est moins libre. En tout cas, on est très heureux de pouvoir tenir cette table ronde aujourd'hui, très reconnaissant à tous nos participants qui viennent de loin, pour certains, d'avoir accepté d'y participer. Et nous commençons avec un tout petit retard, parce que notre tout premier intervenant, Alain Schnapp, semble bloqué dans les transports en commun. Mais on a confiance et on pense qu'il arrivera, donc nous commençons avec un peu de retard, mais nous espérons que nous tiendrons le temps. Je commence rapidement en vous présentant évidemment Yann Potin, mon collègue et ami, archiviste aux Archives nationales, chartiste normalien. On a pensé cette table ronde ensemble et on va se partager l'introduction. Je commence, il fait le milieu, je refais un peu de la fin et on va essayer d'être le plus dynamique et le moins figé possible les uns et les autres. Et pour ce faire, nous commençons par de la musique que les spécialistes du Collège de France tout à l'heure ont qualifiée de rock gothique. Nous commençons donc par un extrait d'une minute de rock gothique. Attention aux oreilles, c'est une sorte de voyage qui nous emmène dans un village nommé Willich, entre Krefeld et Mönchengladbach, où en juillet 2012, un jeune photographe et compositeur, Ares Kalogeropoulos, a posté sur YouTube ce rock gothique, à défaut de meilleure dénomination, exactement sur le sujet qui nous occupe. Alors, pour nous mettre en mouvement, nous commençons par cette minute de rock gothique. L'idéal serait que la lumière soit un tout petit peu plus basse pour que nous profitions bien de cette minute. Rock gothique en langue allemande. Ich bin griechisch, ich will nach Hause. C'est le message en allemand de cette cariatide de l'Eric Taillon que vous avez reconnu, qui, dans ce petit extrait, vous pouvez consulter vous-même les 4 minutes de ce clip sur YouTube, qui, dans ce petit extrait, donc, se plaint d'être séparé de ses sœurs, les unes étant au British Museum, l'une étant au British Museum et les autres étant restées à Athènes. Et j'en profite aujourd'hui aussi pour saluer la présence du directeur du British Museum, Hartwig Fischer, qui nous a fait l'amitié de venir de Londres pour participer à notre table ronde. Donc, « Ich bin griechisch, ich will nach Hause », une statue qui demande le droit, qui veut rentrer chez elle, c'est un motif que l'on rencontre dans différents prospectus d'activistes politiques, y compris dans le contexte grec et britannique, sur ce prospectus fabriquée pour une campagne publicitaire où l'on voit un homme en slip qui semble mimer la Vénus de Milo. Donc là encore, une identité entre des statues, des objets qu'on pourrait croire inanimés et une personnalité, un être vivant. Donc l'une, dans le cas précédent, était une statue qui parle et qui réclame son retour. Ici, on voit un homme mutilé comme une statue qui ne parle pas et qui semble passif sous le titre d'elginisme qui rappelle les conditions historiques dans lesquelles il serait, lui, ou évidemment ce qu'il représente, la statue, passé de son lieu d'origine à l'Angleterre au début du XIXe siècle. Alors pour cadrer, pour organiser notre introduction, nous proposons trois volets qui s'intitulent « Constat d'omniprésence »,« Construire l'objet » et « Nous ici ». Et dans chacun de ces volets que nous allons nous partager, Yann Potin et moi, nous allons dire quelques mots, en maximum un quart d'heure, sur le sujet qui va nous occuper toute la journée. Et je commence donc par ce constat d'omniprésence. Quand on s'occupe de translocation patrimoniale, de déplacement de collections, d'appropriation, de centralisation de collections d'art, de bibliothèques et d'archives, et quand on s'en occupe au moment peut-être le plus qui a produit le plus de documents iconographiques, de textes et de discours sur ces questions, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, dès ce moment-là, on voit, par exemple, en lisant les textes d'Henri Grégoire ou ses rapports, que dès ce moment-là, les objets d'art, des objets, des tableaux, sont dotés d'une personnalité, d'une part, mais aussi d'un désir et d'un droit, ou en tout cas d'une potentialité, d'une possibilité de choisir pour eux-mêmes ce qui est le mieux pour eux. Dans le cas de l'abbé Grégoire, notamment, célèbre citation, en 1794, au moment des confiscations révolutionnaires dans les Flandres, dans l'actuelle Belgique et aux Pays-Bas, l'abbé Grégoire annonce à Paris lors d'un discours « Crayer, Van Dyck et Rubens sont en route pour Paris et l'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées. » Comme si les tableaux de Crayer, Van Dyck et Rubens ou leurs auteurs s'étaient levés en masse eux-mêmes, ces écoles de peinture, s'étaient mis en route avec leurs jambes eux-mêmes pour rejoindre Paris, pour rejoindre le pays de la liberté, pour rejoindre les possibilités qu'allait leur donner le pays de la liberté, puisque la rhétorique qui sous-tend ces confiscations révolutionnaires, c'est que l'art étant un produit de la liberté, il doit être concentré au pays de la liberté, c'est-à-dire en France. Et ici, ce ne sont pas des acteurs politiques qui déplacent des objets, mais bien les objets qui décident eux-mêmes d'aller à Paris, de leur plein gré, au pays de la liberté. Cette figure rhétorique de l'objet qui désire lui-même rejoindre le pays de la liberté, on la retrouve à sens inversé quelques années plus tard, quand, à la fin de l'Empire, Paris est contrainte de restituer les œuvres qu'elle avait saisies. On voit ici, par exemple, en 1815, je l'ai souvent montré dans le cadre des cours ici au Collège de France, ce tableau, ce triptyque du jugement dernier de Memling qui avait été saisi par Dominique Vivant-Denon à Danzig, à Gdansk, en 1807 et qui, en 1815, quand il revient et qu'il fait une station à Berlin, donne une interview au Berlinische Nachrichten. Et vous voyez qu'ici, il va, donc sur plusieurs pages, donner des Worte des Danziger Bildes, das jüngste Gericht vorstellend, an seine Freunde. Donc il donne une interview, il parle à ses amis et il explique ce que ça a été pour lui que ce voyage à Paris et il réclame maintenant une visibilité plus grande, maintenant qu'il a vécu l'expérience du Louvre et de la grande visibilité internationale qu'il y a eu pendant quelques années. Il réclame désormais d'être visible aussi et de ne pas retourner dans son église sombre de Danzig, mais d'être exposé dans un musée public. Donc, dans ces années 1800, entre 1794, les premiers grands déplacements patrimoniaux d'œuvres d'art, et 1815, les tableaux parlent, les tableaux disent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Alors, ce phénomène, on le trouve très loin en arrière dans l'histoire. Là encore, l'un des premiers documents qui nous témoigne d'une restitution est le fameux prisme qui relate les saisies d'Assurbanipal que j'ai déjà montré, où ici Assurbanipal explique qu'une déesse, Nanaya, a attendu 1635 ans et a fini par demander à Assurbanipal de la ramener chez elle puisqu'elle avait été enlevée 1635 ans, dit-il, plus tôt. Et on peut lire donc dans ce cylindre, sur ce prisme qui rapporte ces récits de bataille d'Assurbanipal, sa campagne, que Nanaya, la statue, lui aurait dit Nanaya, très en colère pendant 1635 ans, Nanaya, qui était partie pour Elam, ce lieu indigne d'elle, m'a confié la tâche de la ramener chez elle. Et on voit en quelques mots ensuite que Nanaya est très contente de rentrer chez elle, enfin, parce qu'Assurbanipal est venu la libérer d'un endroit où elle se sentait extrêmement mal, où elle s'est sentie pendant un millénaire et demi extrêmement mal. Donc, une omniprésence de cette figure rhétorique autour de 1800 dans le contexte européen, mais aussi, si on part en arrière dans le temps, dans des témoignages archéologiques, ou alors si on avance jusqu'au XXe siècle, de multiples documents qui témoignent aussi de cette personnification d'objets qui prennent pour eux-mêmes des décisions. Vous voyez ici, au moment où les Allemands ont cru devoir restituer le buste de Nefertiti, vous voyez une caricature parue dans Simplicissimus en 1930, où on voit Nefertiti, donc le buste doté de seins, d'une taille, d'une jambe et d'une mini-jupe, et ses collègues du musée du Caire, qui la voient revenir, s'exclament, on le voit en dessous, « Wie geschminkt die Nefertiti aussieht, man merkt, dass sie so lange in Berlin gewesen ist. » Qu'est-ce qu'elle est maquillée, cette Nefertiti? On voit qu'elle est restée longtemps à Berlin. Donc là encore, une œuvre qui a pris la décision de rentrer elle-même en jupette, en quelque sorte, et qui a été transformée pendant son séjour d'une quinzaine d'années à Berlin et qui revient comme une personne dont on commente le style, le nouveau style ici. Cette omniprésence qu'on trouve dans l'histoire, c'est-à-dire de l'Antiquité à aujourd'hui, on la trouve aussi répartie dans l'espace. Vous vous souvenez, au moment de la mise en vente des têtes de bronze de la collection d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 2009, quand ces pièces qui avaient été saisies au milieu du 19e siècle au Palais d'été et qui s'étaient retrouvées sur le marché de l'art quand elles ont été vendues en 2009, une multitude de caricatures sont parues, ou de dessins ou aussi d'articles, bien sûr, dans la presse chinoise qui faisaient parler les objets eux-mêmes ou les faisaient pleurer dans ce cas-là, avec cette bulle qui indique « on veut rentrer à la maison », donc deux pauvres bronzes, têtes de bronze enlevées de Chine au 19e siècle, qui en 2009 à Paris expriment le désir de rentrer chez elles. Et si on change de continent, là on était en Asie, ce texte que certains d'entre vous connaissent sûrement, d'Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture du Mali, qui en 2006, au moment de l'ouverture du musée de Quai-Branly, a formulé un texte important et souvent cité, qu'on retrouve dans plusieurs anthologies, sur la présence du patrimoine africain en Europe. Et à la fin de ce texte, Aminata Traoré interpelle les objets eux-mêmes, leur parle comme si c'était des personnes, ou même comme s'ils étaient mieux que des personnes. Elle écrit, j'ai raccourci ce passage que vous trouvez facilement aussi, ça a été un texte beaucoup diffusé sur Internet. Elle écrit, pour terminer, je voudrais m'adresser encore une fois à ces œuvres de l'esprit qui seront intercédées auprès des opinions publiques pour nous. Donc elle s'adresse aux œuvres de l'esprit, aux objets, qu'elle n'appelle pas objets, et c'est significatif, aux œuvres de l'esprit, qui doivent, selon sa construction rhétorique, selon sa stratégie, la stratégie de ce texte, ces œuvres qui doivent intercéder auprès des opinions publiques en faveur des Africains, ou des intérêts des Africains. Je continue quelques phrases donc de ce discours adressé aux œuvres. Vous nous manquez terriblement. Notre pays, le Mali et l'Afrique tout entière, continue de subir bien des bouleversements. Aux dieux des chrétiens et des musulmans qui vous ont contesté votre place dans nos cœurs et vos fonctions dans nos sociétés, s'est ajouté le dieu argent. N'entendez-vous pas de plus en plus les lamentations de ceux et celles qui empruntent la voie terrestre, se perdent dans le Sahara ou se noient dans les eaux de la Méditerranée? Si oui, donc vous, œuvre, si vous entendez les voix des migrants, si oui, ne restez pas muette, ne vous sentez pas impuissante, soyez la voix de vos peuples et témoignez pour eux. On a un retournement ici, vraiment, où c'est finalement les œuvres qui sont la voix des peuples sans voix. Et c'est cette figure-là qui va nous intéresser dans ses dimensions politiques, psychologiques, symboliques, en termes d'histoire de l'art, et surtout aussi, à la fin de notre journée, dans sa dimension juridique. Ce sont ces implications qu'on voit ici très souvent, mais qui n'ont pas été pensées encore ensemble, que nous aimerions traiter dans le cadre de ce colloque. Ce texte d'Aminata Traoré est de 2006. Je passe la parole pour notre deuxième petit volet d'introduction à Yann Potin qui va évoquer
donc la manière dont on pourrait collectivement construire cet objet qui n'existe pas, donc cet objet sur les objets, l'autodétermination des objets, et bien entendu cette façon de les faire parler, cette prosopopée des objets, pourrait-on dire. Et il est évident que cette journée s'inscrit de ce fait dans une sorte d'histoire des possibles, pour reprendre l'expression désormais courue de Pierre Singer-Avelou et Quentin de Luermoz, ou une histoire des impossibles, plutôt, à venir. Une sorte donc de what-if history juridique, en quelque sorte, avec cette question en ligne de mire, et si un jour les objets et les œuvres d'art étaient reconnus comme des sujets de droit. Et évidemment, cette question a pris une couleur nouvelle, non pas avec un objet, mais avec un élément du patrimoine naturel, c'est-à-dire cette reconnaissance en Nouvelle-Zélande l'an dernier, en 2017, en mars 2017, de la personnalité juridique à un fleuve, le fleuve Whanganui, donc. Et évidemment, la comparaison n'est pas terme à terme, mais il y a beaucoup à partir de là à démêler et à éventuellement s'interroger. Ne nous y trompons pas, l'idée de prêter aux objets la fiction d'une intentionnalité quelconque, on l'a vu, puisque les objets parlent à la place des dieux, à la place des hommes, vise à mieux faire apparaître, évidemment, les enjeux sociaux et les acteurs qui utilisent la ventriloquie ou l'anthropomorphisme des objets, d'où l'importance des statues, on y reviendra, pour revendiquer une appartenance, une appropriation, voire un nouvel usage. Nouvel usage qui s'accompagne ou non, du reste, d'un transfert de propriété à venir de ces mêmes objets. Les quatre questions visent à faire varier une seule et même interrogation, au fond. À quelles conditions, rhétoriques, anthropologiques, politiques et peut-être juridiques, les acteurs du patrimoine et de sa conservation parviennent-ils à faire croire que les objets peuvent avoir un droit sur leur destination et leur propriété collective ? Cette dernière question, du reste, de la propriété collective peut apparaître comme une contradiction entre la singularité d'un objet personnalisé, n'est-ce pas, et la revendication d'en faire l'élément d'un patrimoine commun. Il se trouve que cette journée a aussi une autre ligne de crête commandant sa genèse. C'est un constat trop évident pour être sans appel. Parmi les éléments du patrimoine culturel, les documents d'archives font l'objet, eux aussi, de revendications, mais la plupart du temps, alors qu'ils parlent par leur nature écrite, ils se distinguent par leur capacité juridique. En tant que titre de souveraineté, leur revendication ne fait pratiquement pas de débat, ou en tout cas beaucoup moins de débat, à la différence des manuscrits, du reste. On le verra tout à l'heure avec Isabelle Lemann de Chermont. Ce n'est pas donc une question d'opposition entre, d'une part, les objets et, d'autre part, les documents, mais peut-être quelque chose autour de la question du matériel et de l'archive, en fait, retrouvant par là l'assimilation des objets à des archives matérielles, mais qui ne serait justement sans voix, tout en ayant une identité. Donc cette journée s'inscrit dans une approche résolument sociale et politique du patrimoine. Faire du patrimoine, comme l'avait judicieusement compris Daniel Fabre, avec qui cette journée avait été conçue et qui depuis lors est disparu, non pas donc faire du patrimoine, non pas une fin en soi, mais l'aiguillon est le révélateur d'un rapport des sociétés contemporaines, notamment au passé. Il s'agit bien de comprendre pourquoi la chaîne ou la geste patrimoniale peut être assimilée à une autre manière d'agir et de pouvoir faire. Ce qu'un récent numéro de la revue 20e siècle a essayé de discuter, pour donc pas tant une histoire des politiques du patrimoine qu'une histoire politique du patrimoine, c'est-à-dire une histoire du patrimoine comme acte politique. Et effectivement, à partir de là, nous pourrions, mais nous n'en avons absolument pas le temps, vous promener dans une forêt de références, dans un arrière-monde bibliographique absolument monstrueux, puisque l'idée n'est absolument pas nouvelle, et même on peut dire qu'elle est fondatrice. Davantage qu'un état de la recherche sur cette question, il serait plutôt intéressant de dresser une nébuleuse de références à travers le semis des disciplines aujourd'hui convoquées, à tout seigneur, tout honneur, si j'ose dire, avec l'anthropologie, puisqu'en effet, le rapport social aux objets est tout simplement au fondement d'une histoire des religions faite science totale de l'homme, qu'on l'appelle ethnologie ou anthropologie. De Fraser à Philippe Descola et Maurice Godelier, en passant bien entendu par la question décisive du totémisme, la manière dont on prête un esprit aux objets et dont les sociétés investissent les objets, se projettent à l'intérieur des objets, est évidemment une question essentielle. J'évoquais également tout à l'heure, non pas l'histoire de l'art, mais la question des statues. En effet, des statues qui parlent, on a vu, et on pourrait y revenir, qu'il y a là une particularité intéressante pour nous, de la même façon qu'il y a une particularité avec les reliques qui ne sont pas des objets, puisqu'ils sont en principe des morceaux de corps humain, mais objectivés peu à peu, au point même du reste, mais on l'a un petit peu oublié, que de la même façon que la Grèce ancienne, et j'ai ici indiqué en référence le livre récent de Vincent Azoulay sur la vie et mort des statues dans la Grèce ancienne, les reliques ont toujours été dotées d'une intentionnalité, bien entendu, et on peut même dire qu'avant le Concile de Trente, une sorte de droit coutumier des reliques, très belle étude de Nicole Hermann Mascard, peut-être un peu oubliée aujourd'hui, existait. Donc les reliques ont réussi à construire un droit durant le Moyen-Âge, un droit coutumier, quand serait-il des œuvres d'art, d'autant qu'effectivement, dans les deux cas, statues et reliques, le rapport au corps humain paraît évident. Mais au-delà de cet autre, un autre segment de référence pourrait évidemment procéder de l'histoire sociale des objets avec le livre de référence dirigé par Apadurai dans les années 80, The Social Life of Things, qui a déterminé toute une histoire de la culture matérielle et de son rapport et de ses transferts culturels. Évidemment, on pourrait parler des heures de cette question, justement, cette fois-ci, non pas de l'objet singulier dans sa vie et son destin, mais au contraire de l'objet banal. Et nous essaierons aussi d'aborder cet aspect, peut-être, c'est-à-dire la question, justement, de l'appropriation et de la vie des objets ordinaires, des objets familiaux. Et, bien entendu, avec comme ligne de mire, plus globalement, la question de l'archéologie en général. Puisqu'au fond, peut-être est-ce là le domaine le plus évident pour réfléchir à la propriété et à l'appropriation des objets, puisque le patrimoine archéologique, en tout cas quand il est enfoui, par sa révélation même, pose la question d'une appropriation. Est-ce les propriétaires contemporains du sol qui sont les légataires de ces objets, puisque, par définition, les objets archéologiques ne peuvent parler, mais tout en étant une force potentielle extraordinaire d'héritage et d'identité et d'appropriation. D'autant qu'évidemment, le patrimoine archéologique est au cœur de la construction, des constructions nationales du XIXe siècle. Voilà un premier bouquet, si j'ose dire, de références qui doivent nourrir notre réflexion ce matin et cet après-midi.
Merci. Notre réflexion qui est conçue, donc nous ici, comme un atelier le plus ouvert possible. Alors vous aurez peut-être les yeux au ciel mentalement en voyant le nombre et l'éminence des participants réunis aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire un marathon additif de contributions, mais de tenter plutôt par ce que les Allemands appelleraient des Impulsreferate, par de courts exposés, de lancer quelques pistes. Et l'idée serait, si ça marche bien, si notre atelier marche bien, de discuter ensemble et d'essayer de faire émerger des points de convergence entre nous qui venons tous de disciplines assez différentes. Donc nous, ce sont 18 participants, ceux que vous voyez indiqués ici avec leur nom souligné sont nos modérateurs. Nous sommes très heureux, très honorés que Pierre Rosenberg, Alain Supiot, François-Xavier Fauvel et Edem Eldem aient pris le temps et nous fassent l'amitié d'être ici avec nous pour essayer d'animer justement ces débats ouverts et seront les modérateurs de nos quatre panels qui vont poser les questions suivantes. Je présente le premier et le quatrième et Yann le 2 et le 3. Le premier s'intitule « Une figure de style ». Dans ce panel, il sera question de la figure de style évoquée tout à l'heure déjà, qui consiste à faire parler les objets. Elle croise des questions bien connues des historiens de l'art, familiers de l'agency des œuvres et des effets symboliques de l'auctorialité, par exemple. Est ici en jeu, ou sera en jeu, le rapport entre l'objet et son créateur, qu'il soit humain ou divin, et au sceau que ce dernier imprime dans l'objet. L'âme du créateur est-elle susceptible d'animer au sens propre les objets et les œuvres? Est-ce que ce sont les œuvres et les objets qui animent le créateur? Et si oui, pour quel motif? Pour répondre à, ou tenter de répondre, ou pour explorer ces questions, seront réunis autour de Pierre Rosenberg dans un instant Alain Schnapp, Isabelle Lemann de Chermont, Charlotte Guichard et Eleonora Wratzkidou, que les modérateurs présenteront au début de leurs petits, de leurs courts exposés, et puis qui entreront en dialogue ensuite. Seconde.
Oui, seconde question, même si le terme principe peut paraître discutable, un principe anthropologique, c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette question du pouvoir attaché aux objets, à leur possession, à leurs échanges agonistiques, donc tout le questionnaire, évidemment, du don, même s'il ne sera pas abordé directement, certainement, mais après tout, le vol est un don singulier, de la même façon que la restitution est une, aussi une forme de retour agonistique. Là-dessus, il y a évidemment une littérature absolument monstrueuse. Donc, échange agonistique, plus ou moins circulatoire, dans l'espace du lien social, comme dans le temps des constructions lignagères, généalogiques et donc nationales, hein, puisqu'en effet, cette circulation décrit des territoires. Et là, c'est François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS et historien et archéologue de l'Afrique, qui on va dire, animera la discussion entre Gaël Beaujean, du musée du Quai Branly, Benoît de l'Étoile, Manuel Charpry et Nanette Snoop, qui nous vient aussi du monde des musées en Allemagne. Troisième question, un argument politique. Alors là, ici, c'est véritablement... On rentre un petit peu au ras ou au front du sujet, c'est-à-dire la problématique de la revendication des objets, cette fois-ci dans ce double langage entre l'objet qui parle et l'objet qu'on fait parler, hein, la problématique de la revendication de la restitution des objets à partir des pratiques des institutions de conservation elles-mêmes, en saisissant la logique de concentration de redistribution patrimoniale comme un geste et un instrument, surtout politique, à part entière. Donc, dans ce cas, ce sera Edem Eldem, professeur au Collège de France, qui animera la discussion entre Arvid Krischer, déjà évoqué, directeur du British Museum, Christian Autin, qui représentera le ministère de la Culture, Léa Nicklins, du Louvre, du Musée du Louvre, et Vincent Négri, premier juriste d'une longue couronne qui nous permettra, si j'ose dire, d'atteindre le but mythique de cette journée, c'est-à-dire la quatrième question.
Une fiction juridique où il sera donc question de prendre au pied de la lettre cette expression du droit des objets à disposer d'eux-mêmes, qui est, par analogie, qui rappelle celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bien sûr. Ici, il s'agira, en confrontant les approches du droit du patrimoine culturel tel qu'il s'est récemment spécifié dans un contexte occidental à celle du droit international, d'explorer les potentialités ou les obstacles qu'offrent aux objets le savoir et la pratique du droit à disposer de soi. C'est notre section finale. On espère que le match France-Pérou ne lui causera pas de soucis. En tout cas, cette discussion sera animée par Alain Supiot, professeur au Collège de France, et elle mettra en dialogue Corinne Herschkovitch, avocate et spécialiste des spoliations des familles juives, notamment Marie Cornu, Noé Wagner, l'un et l'autre spécialiste du droit du patrimoine, et Pierre Baudot-Livinec, qui interviendront sur ces questions. J'ai oublié Xavier Perrot.
Oui.
Pardon, là-haut, très important. Je ne l'ai pas oublié, mais il n'est pas en blanc. C'est un problème technique. Pardon. Et cette journée, que nous espérons bonne, nous permettra de savoir si, oui ou non, on peut utiliser cette métaphore, on peut continuer de la prendre au sérieux aussi quand elle est utilisée, par exemple, dans les médias ou quand, par exemple, Emmanuel Macron tweetait en novembre dernier qu'il ne supportait pas ou que l'Élysée ne supportait plus que les œuvres soient prisonnières dans les musées français. La métaphore de la prison fait partie de tous ces éléments qu'on a évoqués et nous verrons dans quelle mesure, après cette journée d'études, on peut entendre ce genre de propositions avec les mêmes oreilles qu'avant. Est-ce que ça va nous transformer? Nous l'espérons beaucoup. Et nous appelons avec grand plaisir et joie Pierre Rosenberg de l'Académie française, ancien président directeur du Louvre, historien de l'art mondial, éminent, qui, je le crois, fait partie de ces historiens d'art qui parlent aux œuvres d'art la nuit et qui les écoutent, qui dialoguent en secret et qui donc peut-être a aussi un avis sur ces questions. Pierre, un grand merci de vous joindre à nous. Alors, le dispositif, c'est que Pierre Rosenberg, enfin les modérateurs seront ici à la table, appelleront au fur et à mesure les intervenants qui feront leur exposé selon leur désir, soit debout, soit assis. Et puis ensuite, quand chacun des petits exposés aura été présenté, tout le monde se rassemble et on essaye de discuter. Pierre, bonne chance. Merci.